Bien, bonsoir, bonjour, plutôt bonsoir à tous. Nous avons le plaisir ce soir de réunir une assistance pour écouter Éric Roussel, qui est un habitué des Salons Mola, qui est un habitué de Bordeaux, et qui vient ce soir nous parler, évoquer avec vous ce livre qui a paru très récemment, cette biographie de Pierre Brossolette. Alors je crois qu'il n'est pas nécessaire de présenter longuement Éric Roussel, qui est un critique, un historien et un biographe, qui s'est souvent attaqué à des personnages extrêmement importants. Et peut-être d'ailleurs que cet ouvrage consacré à Pierre Brossolette, c'est certainement un personnage très important, mais c'était un personnage moins connu et peut-être de moindre envergure que les personnages auxquels Éric Roussel s'était attelé précédemment. Et puis récemment, enfin, il y a un an et demi, vous avez publié un ouvrage dans une forme un petit peu originale, dans cette belle collection qui s'appelle « Les 30 journées qui ont fait la France » chez Gallimard, 30, 40.
C'est devenu « Les journées ». Les journées. C'était les 30, maintenant, il y en a, c'est seulement les journées qui ont fait la France.
On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus que 30 journées qui avaient fait la France. Et vous avez donné, donc, dans cette belle collection, chez Gallimard, un ouvrage qui s'appelle « Le naufrage » et qui est une histoire d'une journée particulière de l'été 40, qui était ce 16 juin 40, moment tout à fait crucial, à la fois pour des aspects politiques et militaires, et qui d'ailleurs a en toile de fond Bordeaux, avant même qu'on évoque par la suite Vichy. Donc je dirais que si on regarde un peu votre œuvre et vos différents ouvrages, le livre que vous avez écrit il y a un an et demi, Le Naufrage, est un peu atypique dans une série d'ouvrages qui étaient effectivement principalement des biographies. Alors c'est autour de ces biographies et surtout autour de ce beau Pierre Brossolette que nous allons ensemble discuter. Alors je voudrais, si vous en êtes d'accord, avant même d'évoquer Pierre Brossolette et la façon dont vous avez fait ce livre, vous interroger tout simplement sur ce qui vient avant, c'est-à-dire les biographies de Pompidou, de Jean Monnet, du général de Gaulle et de Pierre Mendès-France que vous avez publié en 2007. Il y a une succession là de quatre grandes figures. Est-ce que dans le choix que vous avez fait de ces quatre personnages, est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a un projet? Ou est-ce que ce sont des accidents ou des rencontres?
Non, je crois qu'il y a effectivement enfin, il me semble qu'il y a une certaine cohérence. Le premier de mes livres, il y a bientôt une trentaine d'années, oui, sur Georges Pompidou, ça résultait peut-être... au départ, il s'agissait d'une thèse universitaire, une thèse de droit constitutionnel. Et puis, bon, les hasards de la vie et de l'édition ont fait que cette thèse de droit constitutionnel s'est transformée en biographie. Ensuite, Jean Monnet, c'est un personnage qui m'a toujours intéressé, qui m'est apparu important. Et que, même s'il n'est pas aussi connu que le général de Gaulle ou même Pierre Mendès-France, je crois qu'incontestablement, c'est un des hommes qui a vraiment joué en profondeur un rôle clé dans la France de la fin du XXe siècle. Donc c'est la principale raison pour laquelle je me suis consacré à ce personnage. Alors de Gaulle, là, c'est un peu... je crois que tout seul, j'aurais jamais eu l'idée de m'attaquer à de Gaulle. Il se trouve qu'il y a successivement deux éditeurs qui me l'ont proposé. Flammarion, d'abord, j'avais commencé avec eux. Et puis bon, pour des raisons que j'ai même un peu oubliées, ce projet, finalement, est passé chez Gallimard, ce dont je me suis félicité. Mais j'avoue que si je n'avais pas été sollicité par Gallimard, je ne crois pas que j'aurais eu l'outrecuidance de m'attaquer à De Gaulle. Et c'est d'ailleurs ça a été d'ailleurs un défi, parce que c'est prétendre apporter du nouveau, parce que c'est quand même ça qu'on essaye de faire quand on écrit une biographie. Sur un personnage pareil, a priori, c'est tout de même assez intimidant. Et J'ai lu récemment que Jean Lacouture, qui avait écrit la première biographie du général, a avoué qu'il avait à un moment paru, enfin, ça, dépassé, quoi, par l'ampleur de la tâche, et qu'il avait, s'était demandé s'il n'allait pas abandonner. Enfin, il a vraiment eu des moments de doute. Et je dois dire aussi qu'il y a eu des moments, je n'ai pas pensé abandonner, mais il y a eu un moment où, c'est vrai, où j'étais... comme, non pas écrasé, mais enfin, s'attaquer à un personnage comme ça, c'est vrai que, il y a une problématique de la biographie du grand homme, qui est assez différente de celle d'un personnage plus de moindre importance. On n'écrit pas la biographie de De Gaulle comme on écrit la biographie de je sais pas, quelqu'un qui a une carrière honorable, mais plus obscure.
Et Mendès?
Oui, Mendès, alors ça, c'est un choix aussi, un choix personnel. Enfin, on peut dire que De Gaulle, je reviens brièvement, en réalité, Gallimard a anticipé, c'est un personnage qui m'a toujours passionné, donc ils ont... simplement, voilà, encore une fois, je me serais sans doute pas lancé tout seul si on ne me l'avait pas proposé. Alors Mendès, également, c'est un personnage qui m'a toujours intéressé. Et là, ça résulte alors vraiment d'un choix personnel. Je m'étais même lancé tout seul dedans. Enfin, j'avais commencé sans. Puis ça a été repris par Gallimard tout de suite. Mais c'est pas du tout venu d'une. Ça n'a pas été une proposition d'éditeur. Et il en va de même pour le dernier, pour Brossolette.
Alors justement, voilà. Comment est-ce qu'on en vient à Brossolette? Parce que. Quatre personnages dans cette belle galerie d'importance variée, trois personnages de premier plan, De Gaulle, Mendès et Georges Pompidou, un personnage qui est plutôt un conseiller, qui est Jean Monnet, même s'il a une œuvre très importante. Et puis Pierre Brossolette, c'est une forme particulière d'homme de l'ombre. Alors pourquoi Pierre Brossolette? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi en 2010? Est-ce que ça a une relation?
L'intérêt que j'ai eu pour Brossolette est ancien. Je l'ai commencé à croiser le personnage quand j'ai écrit ce livre sur le général de Gaulle. Il m'était apparu que pendant notamment les années de guerre à Londres, Pierre Brossolette était une des figures les plus intéressantes de la France libre. Et j'avais été vraiment très impressionné, d'abord évidemment comme tout le monde par son courage, mais aussi par l'acuité de ses vues. C'est un homme d'une grande intelligence, d'une grande perspicacité, d'une grande indépendance d'esprit, et qui a aussi un panache tout à fait hors du commun. Et donc j'avais commencé à m'y intéresser dans le cadre de ce livre sur le général de Gaulle. Et puis j'ai parlé de lui avec une certaine sympathie, je crois, dans ce livre sur de Gaulle. Et puis il s'est trouvé que j'ai revu les enfants de Pierre Brossolette que j'avais croisés autrefois. Et puis je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire exactement comment ça s'est fait. Mais enfin, le fait est qu'au bout d'un certain temps, j'ai décidé d'écrire ce livre sur un personnage qui par la force des choses n'a pas autant marqué, puisqu'il est mort malheureusement très très jeune dans des circonstances tragiques et héroïques, mais dont je considère qu'il avait tous les attributs du grand homme. Et c'est vraiment quelqu'un de tout à fait hors du commun, non seulement par son cursus universitaire. C'est quelqu'un qui a été premier partout, il est premier à Normale Sup, premier. Il est seulement second à l'agrégation d'histoire, mais on peut penser qu'il est reçu second, derrière Georges Bidault d'ailleurs, en raison de sa témérité, parce qu'il est non seulement très, très intelligent, mais je le répète, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'indépendance d'esprit, de panache, à l'agrégation d'histoire, à l'épreuve orale. Il doit traiter le sujet suivant, les abbayes carolingiennes sous Louis le Pieux. Alors évidemment, c'est un sujet assez ténu, il a réfléchi deux minutes, et puis à la stupéfaction du jury, il a déclaré que, au fond, c'était un sujet qui lui paraissait débile, et qu'on ne pouvait pas le traiter, enfin qu'on ne pouvait pas en dire grand-chose. Donc il a fait ce qu'il a pu, mais enfin il a fait cette déclaration liminaire, évidemment, qui a impressionné le jury et qui lui a peut-être coûté la première place. Voilà, donc c'est un personnage qui... Ce qui est séduisant chez lui, c'est que c'est un homme qui a des convictions très très fermes, et il va le prouver, puisqu'il va même donner sa vie pour le combat qu'il a mené. C'est un homme qui a des convictions très fermes, mais qui est le contraire d'un sectaire, et qui a une intelligence très souple, et qui est capable, dans l'action, de pragmatisme. Je crois qu'on fait une erreur sur le... Dans le projet que j'ai eu d'écrire cette biographie, il y avait aussi la volonté de rectifier. Je trouvais que, dans les livres qui sont consacrés à la résistance, je trouvais qu'on donnait de Pierre Brossolette une idée qui ne me paraissait pas juste. C'est-à-dire qu'on le présente comme un homme extrêmement brillant, certes, désintéressé, évidemment, mais qui aurait été, en quelque sorte, le contraire d'un homme d'action, qui aurait été un homme qui n'aurait pas su traduire ses idées en actes. Or, quand on regarde son parcours, on s'aperçoit au contraire que c'est un homme d'action tout à fait remarquable. Et bon, il a été à un certain moment marginalisé parce qu'il tenait à ses idées. Et bon, c'est la vie, je veux dire. Mais au contraire, si on regarde son parcours, et notamment son parcours pendant la guerre, on s'aperçoit que c'est un grand homme d'action. Donc c'est une alliance assez rare d'un grand intellectuel, d'un grand journaliste, parce que ça a été un très grand journaliste avant la guerre. Donc, quand on relit ses articles de politique étrangère, on est assez ébloui par sa perspicacité. Et il faut souligner aussi, on a souvent dans les travaux qui ont été jusqu'à présent consacrés à Pierre Brossolette, on a souligné à juste titre la perspicacité dont il avait fait preuve vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne. On sait moins, et je crois que c'est quand même important de le signaler, que cet homme qui était un homme de gauche a été aussi très tôt extrêmement lucide sur l'Union soviétique. Ça, on voit, il y a des articles que j'ai retrouvés, que j'ai reproduits pour partie, qui montre un regard extrêmement lucide sur l'Union soviétique, à une époque, il faut bien dire, où l'Union soviétique, au début des années 30, jouissait d'une sorte de préjugé favorable, non seulement d'ailleurs à gauche, mais enfin dans si on prend quelqu'un comme Édouard Herriot, qui était quand même assez représentatif, qui incarnait même la Troisième République, Édouard Herriot faisait preuve d'une soviétophilie absolument aveugle, puisqu'il avait même fait un voyage en Union soviétique à l'époque, je crois bien, des grandes famines organisées par Staline, et il en était revenu en disant qu'il n'avait vu que des jardins en plein rendement. Brossolette, lui, était tout à fait différent. Il n'avait pas fait le voyage, mais il avait analysé le système par son intelligence, sur la base de faits, et il avait très bien démonté ce système. Il avait mis en évidence son caractère criminel, parce qu'il le dit noir sur blanc. Et il avait montré aussi, d'une façon impeccable, que c'est un système économique qui ne pouvait déboucher que sur la paupérisation et l'échec. Alors, je crois que c'est quelque chose qui méritait d'être souligné, non seulement pour comprendre l'évolution qui va être celle de Brossolette plus tard, et notamment pendant la guerre, mais d'une façon générale, pour l'histoire intellectuelle de l'époque. Parce que, encore une fois, je crois qu'il y a assez peu d'esprits comme Brossolette qui ont fait preuve vis-à-vis de ces deux totalitarismes d'une très grande lucidité.
Alors, dans ce livre, ce qui est intéressant particulièrement, c'est une biographie, mais c'est un peu une biographie à thèse. Et vous venez un peu de le dire, parce que quand on regarde la structure de l'ouvrage, cet homme qui meurt dans les circonstances que vous racontez, que vous venez d'évoquer en 1944, eh bien, vous avez mis nettement l'accent sur la période de 1940 à 1944, en termes de volume. Et vous avez peut-être consacré moins de pages à des choses qui étaient peut-être plus connues, hormis son attitude à l'égard de l'Union soviétique. Est-ce que là, il y a le choix vraiment d'éclairer son rôle, de remontrer, de rehausser plutôt son rôle dans la résistance, ou est-ce que c'est le fil du récit qui vous a amené à composer comme ça ?
Non, j'ai voulu faire cet livre qui est assez différent des livres que j'ai écrits jusqu'à présent, parce que d'abord c'est une vie beaucoup plus brève. Quand Jean Monnet a vécu 90 ans, il a eu une action pendant près de 60 ans, donc c'est tout à fait différent. De Gaulle, n'en parlons pas. Madès France a aussi une vie beaucoup plus longue que celle de Brossolette, une grande action. Donc fatalement, c'était un livre qui ne pouvait pas avoir le même caractère. Au surplus, il y a pas tellement les archives de Brossolette se limitent à trois cartons aux archives nationales, donc il y a pas grand chose. J'ai quand même eu vous dites que j'ai privilégié la période de la guerre. C'est vrai, parce que je crois que c'est quand même la période durant laquelle il a eu le rôle le plus important et il a marqué son époque, enfin son... Il fait le preuve le plus de ses qualités d'homme d'action. Mais je me suis quand même attaché à relire les articles qu'il avait écrits avant la guerre. Et à les mettre. Alors j'ai fait ça de façon peut-être un peu plus synthétique, parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait eu un livre de Guillaume Piketty qui avait été... qui était d'abord une thèse et qui s'est transformée en livre, qui était un livre très, très approfondi. Et donc j'ai voulu, si vous voulez, faire quelque chose d'assez différent, qui est peut-être plus un portrait. Je crois pas que ça soit un livre à thèse. Je crois que c'est vrai que j'ai de la sympathie pour Brossolette, mais je crois pas que ça me rende aveugle vis-à-vis d'autres acteurs de cette période. C'est vrai que c'est un personnage pour lequel j'ai une grande admiration. Alors ça se voit peut-être, mais ça ne veut pas dire pour autant que je méconnais les mérites d'autres grands acteurs de cette période.
Et vous relevez d'ailleurs un certain nombre de traits de caractère, c'est ce que vous disiez au tout début de votre propos. Un personnage intelligent, intellectuel et homme d'action, mais un personnage de grand caractère,
oui,
qui l'amène parfois à faire quelques erreurs. Cette lettre que l'on connaissait, mais que vous redonnez en entier, cette lettre qu'il écrit en novembre 1942 au général de Gaulle, elle est tout à fait stupéfiante, une espèce de lettre de remontrance. Donc il fait parfois des erreurs, on sent
oui,
que...
Oui, bon, en même temps, c'est l'intérêt du personnage. C'est oui, il écrit, enfin, faut peut-être expliciter ça pour nos auditeurs. Lorsque Pierre Brossolette donc se retrouve à Londres, il est le numéro 2 du BCRA, le service secret de la France libre, derrière le colonel Passy. Il est, bien que issu d'une gauche résolue, il est très, tout à fait acquis dès le départ à la cause du général de Gaulle. Il est même fasciné par le personnage. Et ça, il faut quand même le souligner. Il écrit des articles sur de Gaulle qui sont magnifiques, où il définit très bien son rôle. Il dit il fallait que quelqu'un assume la France moralement. Enfin, c'est ça qu'il met l'accent sur. Et il le fait avec beaucoup de force, et il y a un certain mérite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la même époque, à Londres, il y a tout un groupe qui est présent et qui est très hostile, en réalité, au général de Gaulle, et qui a certains moyens, et qui se... Et ils ont même tellement de force de persuasion qu'ils vont réussir à persuader qu'un homme dont l'intelligence n'était pas contestable, qui est Raymond Aron. Raymond Aron a écrit un article qui s'appelait « L'ombre des Bonaparte », dans lequel le thème, c'est le sentiment. Il développe l'idée que le général de Gaulle pourrait bien avoir des sentiments peu démocratiques, peu républicains, et même des tendances un peu dictatoriales. Donc cet état d'esprit existait à Londres dans des milieux qui était pas complètement séparé de la France, enfin un peu périphérique. Et on aurait pu penser que des gens comme Brossolette auraient pu être en quelque sorte contaminés, parce que c'était leur famille, c'était sa famille d'origine. Et c'est là où on voit, je crois, l'importance du caractère. C'est la même chose d'ailleurs pour Mendès France. Quand Mendès France arrive à Londres, il a beaucoup d'amis dans ce groupe qui s'appelait le groupe Jean Jaurès. Mais comme Brossolette, dès qu'il rencontre le général de Gaulle, il voit que c'est un homme supérieur, hors du commun, et au moins pour la durée de la guerre, il décide qu'il faut se mettre dans son sillage. Donc c'est là, je crois, où la notion de caractère intervient. Alors elle intervient aussi, parler de cette lettre de 1942 qu'il écrit au général de Gaulle, oui, elle fait apparaître une grande indépendance de caractère, même une témérité un peu folle, puisque donc Brossolette est frappé quand même, quelle que soit son admiration pour de Gaulle, par le côté très dur du général, le fait aussi qu'il est marqué par son premier métier, le métier des armes, qu'il a une conception un peu militaire de l'obéissance, enfin bon, toutes les choses qu'on peut lui dire sur lui. Et il faut dire aussi qu'il avait, à l'époque, surtout un abord qui n'était pas toujours extrêmement chaleureux. Après ça, il est devenu plus... L'expérience venant, plus je ne vais pas dire patelin, mais enfin, plus aimable. À l'époque, c'était un personnage incommode, et bon, qui ne le cachait d'ailleurs pas. Et donc, Brossolette lui écrit une lettre absolument inouïe, dans laquelle il lui dit « J'ai toujours dit la vérité aux gens que j'admirais. » Voilà, alors, donc il lui donne il lui dit « Vous devriez changer votre comportement parce que ça vous nuit. En » fait. Mais il le dit beaucoup mieux que vous le dis là. Et alors, c'est une lettre qui est extraordinaire, qui est écrite dans d'une façon magnifique. Stratégiquement, ça a sans doute été une erreur, oui, de la part de parce que connaissant la personnalité du général de Gaulle, on ne peut pas penser que ça ait servi la cause de Brossolette. On attribue à de Gaulle ce mot « ceux qui me servent, je les méprise, quant à ceux qui me résistent, je ne peux pas les supporter ». C'est du moins ce que rapportait son premier biographe, qui était le fils de Maurice Barrès, qui racontait cette... Je ne crois pas qu'il avait inventé ce mot, bon, c'est peut-être un peu... mais ça traduit quand même une certaine réalité. Ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse du général de Gaulle. Il faut dire que c'était une lettre qui avait été envoyée en plus en dehors de la voie hiérarchique, qu'il lui avait envoyée directement. Donc il n'y a pas eu de réponse à cette lettre. On peut simplement supposer qu'intellectuellement, le général n'en a pas conçu, a conçu plutôt de l'estime pour Brossolette, parce que ça, on sait qu'il en avait. On sait aussi qu'il appréciait autour de lui, de la part de ses collaborateurs, la première qualité qu'il appréciait de ses collaborateurs, c'était une obéissance totale. Et ça a toujours été son cas, et ça a continué d'ailleurs après 1958. C'était quelqu'un qui était... De Gaulle était, on l'a souvent souligné, s'est comporté comme un rebelle en 40, mais c'était quand même un homme d'ordre. C'était un homme qui était habitué à travailler dans des structures bien précises et pour lesquelles hiérarchie militaire, administrative, sociale aussi, comptait. Donc il aimait mettre les gens dans des cases. Alors quand Jean Moulin est arrivé, bon, bah, c'était un préfet. Alors ça, un préfet, c'était quelqu'un... Il voyait très bien ce que c'était. C'est un homme qui sait se faire obéir, qui sait obéir, qui se... Brossolette, pour lui, était certainement un personnage plus déconcertant, qui était un journaliste venu de gauche. Il appréciait certainement son intelligence, mais il a vu tout de suite que c'était un personnage qu'il aurait du mal à atteler, disons. C'était... Mendès France aussi, d'une certaine façon, était un peu comme ça. C'était des hommes de grand caractère et qui n'étaient pas faciles à manier.
Alors, personnage de grand caractère, parfois imprudent. Là, on évoque son action à la fin de sa vie, dans ces années qui sont les plus flamboyantes et les plus tragiques en même temps. Si on revient un peu en arrière, vous brossez quand même le portrait d'un personnage qui, au-delà de son métier de journaliste, fait une carrière politique. Et là, on a un peu de peine, bien que vous citiez un certain nombre de textes tout à fait intéressants, on a un peu de peine à suivre la cohérence de ce personnage. Alors, la cohérence n'est pas une caractéristique ni nécessaire ni obligatoire pour faire de la politique, mais c'est quelqu'un qui vient d'un milieu laïque. Il est à l'origine proche du parti radical, et puis il va évoluer au point de se rapprocher de la SFIO, de devenir un responsable local, puis un élu de la SFIO, il est élu député. Et là, on voit qu'il y a des influences assez diverses qui s'exercent sur lui. C'est-à-dire que vous dites qu'il a toujours ce fond qui est largement un héritage de culture laïque et radical. Vous dites d'ailleurs un peu plus loin que c'est un personnage qui était un des responsables, enfin, qui avait été initié à la franc-maçonnerie. Donc tout ça est assez cohérent. Le passage ensuite vers la SFIO en 1936, au moment où elle va accéder au pouvoir dans une coalition et une alliance avec les radicaux, mais aussi avec le Parti communiste, c'est une formation politique qui est encore officiellement marxiste, même si elle a une pratique réformiste. Et là, on voit qu'il y a toute une réflexion, apparemment au moment où il disparaît Pierre Brossolette était en train de rédiger un essai, une réflexion sur le marxisme. Et donc, c'est là où on a un peu de peine à voir, mais peut-être que ces incohérences sont des caractéristiques singulières de ce personnage. On a un peu de peine à voir son attitude, notamment vis-à-vis de ce référent marxiste. Est-ce qu'il a beaucoup écrit dans ses articles qui étaient essentiellement consacrés à la politique étrangère? Est-ce que publiquement il s'est un peu déterminé eu égard à cette grande référence qui était quand même le marxisme pour le socialisme?
Vous savez, quand il a d'abord adhéré au parti radical, quand la famille de pensée des siens, enfin de son père. Bon, et puis il a très vite constaté que le parti radical était un parti déjà très, très sclérosé. Et il a adhéré à la SFIO essentiellement par admiration pour Léon Blum. C'est ça, au fond, qui l'a déterminé. Et il s'est trouvé, au fond, dans la même position que Léon Blum. Dans le livre qu'il a très intéressant, qu'il a consacré à Léon Blum, Serge Berstein a très bien montré que Léon Blum lui-même avait été souvent déchiré entre l'imprégnation marxiste du parti et une pratique qui n'était pas du tout. Donc cette incohérence que vous signalez concernant Brossolette, en réalité, elle concerne tout le parti et celui qui le dirige, même au premier chef. Il y a d'ailleurs, Pierre Brossolette partage d'ailleurs avec Léon Blum aussi, il y a des choses qui sont dans sa culture, qui font que c'est un homme qu'il est difficile de mettre dans un moule. Par exemple, il a une grande admiration pour Maurice Barrès. On ne sait pas, c'est évidemment pas un auteur qui était l'auteur de chevet des militants socialistes de l'époque. Mais il ne faut pas oublier que Léon Blum lui-même a été très ami, était très lié à Léon Blum. Cette amitié s'est rompue au moment de l'affaire Dreyfus, mais ce qu'on ne signale pas souvent, c'est qu'elle cette amitié a repris après la guerre. Et Léon Blum est toujours resté un fervent barésien. Bon, aujourd'hui, tout ça est très loin. Barès est un personnage qui nous semble à des années-lumière, mais il exerçait une emprise intellectuelle sur toute une génération. Voilà, parlons pas de gens comme Malraux, Aragon. Enfin, bon, ça nous emmènerait trop loin. Je crois que Brossolette était quelqu'un qui avait, encore une fois, qui avait des convictions fermes, mais qui était le contraire d'un sectaire, et qui était capable de pragmatisme, d'ouverture d'esprit. Je crois honnêtement qu'il n'a jamais été marxiste, qu'il a adhéré à la SFIO essentiellement par générosité. C'était un homme généreux, soucieux de progrès, par admiration pour Léon Blum. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que Léon Blum lui a quand même témoigné beaucoup de confiance. On a parfois dit que Brossolette, pendant la guerre, avait voulu prendre une revanche en quelque sorte par rapport au Front populaire. C'est une thèse qui ne tient pas debout. Il avait 33 ans à l'époque du Front populaire. Bon, il avait commencé une carrière dans l'Aube, mais il n'a pas eu la chance qu'a eu Pierre Modeste France d'être élu du premier coup. Donc il n'était pas élu. Et malgré tout, à 33 ans, il était difficile qu'il soit propulsé, enfin qu'il soit nommé ministre à un si jeune âge et sans avoir été élu. Et malgré tout, il est choisi par Léon Blum pour tenir la rubrique, enfin l'éditorial quotidien de politique étrangère du Populaire. C'est quand même une marque de confiance particulièrement éclatante. Il n'y a pas tellement de gens à 33 ans qui étaient bénéficiaient d'une telle marque de confiance. Et moi, je vois pas. Il faut pas oublier que Brossolette est mort jeune, donc toute son action s'est développée dans des années de formation. Enfin, il avait dépassé un peu cette âge, mais enfin, c'était quand même encore un homme jeune qui était susceptible d'évoluer. Je crois que tout le monde évolue, tous les personnages de l'histoire, si grands qu'ils soient, subissent il est rare que, surtout en général des gens intelligents, je crois que la caractéristique des gens intelligents est de savoir évoluer.
Alors, il évolue, et puis, évidemment, la guerre, comme pour l'ensemble de la société française, cette défaite est un cataclysme et une très grande surprise. Il a un engagement très précoce au sein d'un des premiers réseaux, plutôt un réseau d'intellectuels qui entend assurer une défense morale, qui est le réseau du Musée de l'Homme. Et puis, bon, assez rapidement, il va être en contact notamment avec Rémy et il va pouvoir gagner Londres. Alors, à Londres, un peu dans le fil de ce que vous disiez, c'est aussi un homme de rencontre, Pierre Brossolette. Il a rencontré le général de Gaulle qui l'a fasciné, mais il y a un personnage aussi dont vous parlez aussi relativement longuement, qui lui a conçu une admiration considérable à l'égard de Brossolette, et c'était André de Wavrin, le chef des services spéciaux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette relation? Parce que peu de temps avant sa mort, il y a une dizaine d'années, de Wavrin s'est confié à Olivier Orca et a raconté que, c'est dans cette interview dans Libération, il a dit « Pierre Brossolette a fait mon éducation politique ». Donc on a vraiment l'impression que chez ce personnage très important de la France libre, ce chef des services spéciaux depuis 1940, il y a eu une découverte de quelqu'un qui était aussi là, très éloigné pour des raisons sociales, pour des raisons de fortune, pour des raisons de milieu, totalement éloigné de lui. Entre Brossolette et de Wavrin, il y avait peu de choses communes, a priori.
Oui, effectivement. Moi, j'ai eu aussi l'occasion de voir plusieurs fois le colonel Passy avant sa mort, avant, quand j'écrivais mon livre sur De Gaulle. Et j'avais été très frappé quand il m'avait parlé spontanément de Brossolette. Et quand il parlait de Brossolette, je lui avais demandé s'il avait été particulièrement impressionné par le général De Gaulle. Il m'avait répondu non, pas spécialement, comme ça. Je trouvais ça un peu curieux. En revanche, Brossolette il y a eu une sorte de coup de foudre réciproque entre ces deux personnalités. J'ai le souvenir que quand il parlait de Brossolette, il avait les larmes aux yeux. C'était un très vieux monsieur à cette époque-là. Mais enfin, c'était assez émouvant, parce qu'en plus, c'était pas quelqu'un de particulièrement sentimental. Et vraiment, il en parlait avec avec beaucoup d'affection, une très grande admiration. Alors, effectivement, Passy, donc André de Wavrin, venait d'un milieu qui était tout à fait différent de celui de Brossolette. Il venait d'une famille importante, c'est une famille de notables du Nord. Lui-même était polytechnicien, il était professeur de fortification à Saint-Cyr. Il n'avait pas d'options, quand on l'interrogeait sur ses options politiques, il disait qu'il n'en avait pas. Mais il est évident qu'il n'avait pas beaucoup d'attirance, certainement, pour les partis de gauche. On a fait de lui, je crois, tout à fait à tort, un cagoulard. Je crois qu'il n'a jamais été cagoulard. Mais enfin, il devait être droite, enfin un peu comme De Gaulle. On peut imaginer que c'était un peu la même famille. À cette différence près que, je crois que Passy, quand il a dit à Olivier Wiaworka que Brossolette avait fait son éducation politique, si on veut bien le croire, parce que je crois que sa formation était vraiment très limitée dans ce domaine-là. Et donc c'était essentiellement... Finalement, le personnage de Brossolette, je crois qu'il l'a, voilà, qui a suscité sa sympathie. Et cette sympathie s'est renforcée dans l'action, puisqu'ils ont été amenés à collaborer sur, bien entendu. Et puis, je crois qu'ils partageaient aussi, les vues de Brossolette sur l'avenir de la France après la libération, parce que c'est ça aussi qui a différencié Brossolette de beaucoup de gens de ceux qui venaient de son horizon et qui ont partagé les mêmes combats pendant la guerre. Et Brossolette était quelqu'un qui portait en réalité sur la Troisième République finissante un regard très 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 peu complaisant. Il avait été fidèle à Léon Blum, il restait admiratif. Mais il n'y a aucun doute, on voit très bien à travers la correspondance qu'il a, notamment avec sa femme, au moment de la débâcle de 1940, il incrimine clairement le personnel politique. Enfin, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup d'admiration pour quelqu'un comme Daladier, naturellement, il considère pas que la Troisième République, les gens de Vichy qui considèrent que la Troisième République est responsable de la défaite. Enfin, il pensait qu'il y avait beaucoup de choses, disons, à reprendre, à critiquer, et que la Troisième République finissante n'avait pas été un régime, quand même, d'une particulière énergie. Il pensait même que c'était un système qui s'était déréglé et qui avait malheureusement empêché des gens de valeur de s'affirmer. Donc il portait un regard très critique sur le système partisan de la Troisième République. Et ça l'a amené pendant la guerre à développer l'idée, il faut redire combien il avait été frappé par la personnalité du général de Gaulle, et il en était arrivé à penser que, dans un premier temps, enfin, il pensait que la libération qu'il prévoyait, il espérait plus exactement que cette libération serait l'occasion d'un renouvellement profond de la France et du système partisan, et que les vieux partis politiques qui à ses yeux avaient fait faillite seraient remplacés par des structures plus adaptées à la France qui se profilait, et avec un renouvellement surtout des hommes. Il voyait, et d'ailleurs ça a été la caractéristique de la résistance, il est passé beaucoup de gens qui avaient une autre vision, une vision plus moderne des choses que le personnel politique de la Troisième République. Donc, d'un point de vue pratique, Brossolette en était arrivé à penser que, pour un certain temps, le général de Gaulle serait amené à exercer une sorte de magistrature à la romaine. Alors, ça ne voulait pas dire du tout. On l'a transformé en adepte du parti unique. Et on a même dit qu'il était fasciste. C'est totalement absurde. Enfin, à mes yeux, ça ne repose sur rien. Il ne voulait pas confier des pouvoirs dictatoriaux au général de Gaulle. Il pensait simplement que la sagesse était, pour toutes les familles spirituelles et politiques qui avaient été unies dans le combat de la résistance, de se regrouper autour d'une figure non respectée, et le temps de remettre de l'ordre dans le pays et de donner l'occasion au pays de se restructurer à travers des forces politiques renouvelées. Voilà, je crois que c'était son idée. Alors évidemment, ça bousculait le jeu d'un tas de gens qui étaient au contraire partisans d'une sorte de poursuite de la Troisième République. Et il y en avait quand même. Alors ça a été un grand débat, en réalité, dans la résistance. Et le paradoxe est que le général de Gaulle, qui intellectuellement était certainement du côté de Brossolette, parce qu'au fond, il développait à peu près les mêmes idées, les mêmes critiques, en tout cas vis-à-vis de la Troisième République finissante, intellectuellement, il était certainement de son côté. Il n'empêche qu'on doit constater qu'il a tranché en faveur de Moulin, qui, lui, était un homme qui était vraiment sorti du moule de la Troisième République et qui ne voyait pas, au fond, la nécessité de revenir sur le système partisan de la Troisième République. Il pensait qu'il fallait s'appuyer sur les partis tels qu'ils existaient. Et ce qui a suscité l'attitude du général, je pense que c'est tout simplement le contexte. Il ne faut pas oublier que ce grand débat prend place essentiellement au printemps 1943, à une époque où le général de Gaulle n'est pas encore reconnu, où la France libre et de Gaulle ne sont pas reconnus par les alliés, et notamment par les Américains, où le général est soupçonné de tendance dictatoriale, il est tantôt traité dans la presse américaine de communiste, de fasciste, enfin en tout cas, il apparaît comme un personnage très inquiétant, et qu'on connaît mal en réalité. Et donc dans cette perspective, paradoxalement, l'appui de leaders, de dirigeants politiques de la Troisième République est beaucoup plus important, évidemment, pour le général de Gaulle que l'appui de gens comme Brossolette. Et c'est ce qui va se passer. Il y a eu effectivement, en faveur du général, l'intervention d'Edouard Herriot. Dans les archives de Roosevelt, il y a une lettre d'Edouard Herriot se portant garant des sentiments démocratiques du général. Enfin, il l'a sans doute un peu regretté après. Mais, et on voit qu'il y a aussi une intervention des chefs de mouvement qui sont des gens complètement inconnus. Et je trouve que j'ai eu l'occasion de voir ça dans les archives de Roosevelt. On voit que ces lettres des chefs de mouvement qui plaident la cause du général de Gaulle, enfin avec beaucoup plus d'énergie qu'avec Herriot, c'est classé quasiment sans suite. Enfin, ça n'a pas d'écho parce qu'on ne sait pas qui c'est. On se dit que ce sont des gens qui écrivent comme ça, mais qui ne représentent rien. Donc ça explique l'attitude qu'a eu le général, l'attitude qui paraît a priori paradoxal, puisqu'il a, au fond, tranché en faveur des partis de la Troisième République qui critiquaient. Je crois qu'on ne peut comprendre, encore une fois, ce choix que si on le replace dans le contexte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il désapprouvait intellectuellement Brossolette, ça veut dire que voilà, qu'il c'était un grand politique, un grand réaliste, et il l'a dit souvent, il n'y a pas de politique en dehors des réalités. Donc c'est sûrement évidemment quelque chose que Brossolette voyait moins bien, parce qu'il était... Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il faisait aussi des missions en France. Il n'avait pas certainement cette pleine conscience des problèmes qui pouvaient se poser sur le plan international. Il défendait peut-être une idée qui était plus... Enfin, qui ne tenait pas compte de cet élément, ça c'est certain. Mais je ne crois pas que ça lui ait nuit, encore une fois, dans l'esprit du général. Il se trouve que lors de son séjour, bien des années après ça, avoir quitté le pouvoir en 1969, de Gaulle s'est retiré quelque temps en Irlande, et l'ambassadeur de France, à l'époque, était Emmanuel Darcourt, qui était compagnon de la Libération, et donc qui avait, avec le général, des rapports assez étroits. Et Emmanuel Darcourt a eu l'occasion, au cours des longue visite qu'il a rendue au général à ce moment-là, de lui parler de Brossolette, de Moulin. Et le général a eu cette formule. Et il a dit Brossolette a été une sorte de philosophe du gaullisme, alors que Jean Moulin se préoccupait surtout de son application. Enfin, c'était un homme de... Alors, je ne crois pas que le qualificatif de philosophe ait été dépréciatif dans l'esprit du général. Je crois qu'il a, encore une fois, ce sont les circonstances très particulières de cette année 43 qui l'ont conduit à ce choix, qu'il a peut-être eu d'ailleurs l'occasion de regretter après, puisque on sait que entre 44 et son départ en 1946, il a dû subir évidemment l'offensive des partis, qu'il est même parti, qu'il a donné sa démission en janvier 1946, en raison de la résurgence de ce système qu'il réprouvait et dont Brossolette avait dénoncé auprès de lui la nocivité. Voilà ce que l'on peut dire de cette affaire.
Alors, on voit bien à vous entendre et surtout à vous lire, ce que je recommande à toutes les personnes présentes et à tous les auditeurs de faire, on voit bien que c'est un vif argent hein, de caractère, oui. Et puis c'est un homme de conviction. Alors est-ce que finalement on peut répondre à cette question piège parce qu'elle est un peu réductrice, est-ce que Pierre Brossolette était un homme de gauche ou de droite ?
Non, je crois que c'était un homme de gauche, simplement, c'était un homme de gauche qui aurait voulu un renouvellement, il n'était pas le seul, vous savez, à porter un jugement très sévère sur la Troisième République finissant. Si vous reportez au carnet de guerre de Pierre Mendès France, vous verrez qu'il y a des passages extrêmement sévères sur les hommes politiques, même sur Léon Blum. Il parle de Léon Blum, il dit que c'est un homme qu'il a admiré, il parle d'Herriot aussi, mais il dit mais quand on les compare à De Gaulle, ce sont des gens qui ne... Mendès France a cette expression, il dit qu'ils ont été détruits par le système, c'est une intelligence, ce système les avait, détruits. Bon, donc il partageait aussi, on ne peut pas dire que Mendès France n'ait pas été un homme de gauche. Simplement, il était conscient des tares de cette Troisième République et il ne souhaitait pas qu'elle se poursuive après la guerre. Non, je crois, c'est difficile de prévoir l'évolution, on ne peut pas écrire. Brossolette est mort en mars 1944, personne ne sait comment il se serait comporté après. Est-ce qu'il aurait adhéré au RPF ? Vraisemblablement, il aurait estimé quand même que c'était un parti qui était trop ancré à droite. Ça n'aurait pas. Alors on peut supposer évidemment qu'il aurait pu contribuer à lui donner cet ancrage à gauche qu'il n'a jamais réussi à obtenir. Est-ce qu'il aurait pu faire carrière à la SFIO, étant donné ce qui est devenu la SFIO ? Alors, il y a une chose quand même qu'il faut souligner, qui n'est pas tellement connue, c'est qu'il a été exclu tout de même de la SFIO. Ça, c'est une chose qui n'était pas. Qui était un peu dissimulé, il faut bien le dire, et qui est certaine, puisqu'on a le témoignage de Gaston Defferre, qui est expliqué, ce témoignage qui est déposé aux Archives nationales, Gaston Defferre a expliqué que peu de temps avant la disparition de Pierre Brossolette, dans des conditions dramatiques et héroïques, il avait été exclu de la SFIO en raison de son attitude vis-à-vis du parti, de l'appui qu'il avait donné au mouvement au détriment des partis. Donc on avait considéré qu'il n'avait pas fait son devoir vis-à-vis de militants, en quelque sorte. Mais étant donné la fin héroïque de Pierre Brossolette, et puis le fait aussi qu'il était une des figures quand même du Parti Socialiste, il ne faut pas oublier quand même que pendant toute la durée, pendant toute l'après-guerre, pratiquement jusqu'à la panthéonisation de Jean Moulin, Pierre Brossolette a été la figure de référence. Il était plus connu même que Jean Moulin. D'ailleurs, on voit ça à travers le nombre de rues, d'établissements scolaires qui portent son nom. Et il était, pour le Parti Socialiste, une figure de référence. Et donc, évidemment, on s'est abstenu de faire savoir qu'il avait été exclu, parce que ça aurait été évidemment mal compris et mal reçu. Mais enfin, c'est la réalité. Donc, c'est difficile de dire exactement quelle aurait été son évolution. Moi, je crois que c'était on peut dire que moi, je pense qu'il est resté un homme de progrès. Il n'avait jamais été marxiste, à mon avis. Il avait adhéré à la SFIO essentiellement parce que c'était des idéaux de progrès, de générosité, dont qui était naturel pour lui. Mais c'était quelqu'un qui avait été amené à réfléchir et à évoluer. Au fond, ce qu'on peut dire, c'est qu'il aurait évolué, sans doute, il évoluait virtuellement, enfin, de façon assez évidente, vers ce qu'on peut qualifier une sorte de travaillisme à la française. Voilà ce qui me paraît raisonnable de dire. Alors, où aurait-il trouvé sa place après? C'est difficile. De toute façon, c'était une personnalité assez... oui, vous l'avez dit, c'était un vif argent. Il n'était pas facile. Il était un peu comme Mendès France, d'ailleurs. Mendès France, lui, avait un grand respect pour les partis politiques dont il n'a pas été payé le retour. Mais c'était des personnalités un peu semblables, qui avaient du mal à s'insérer dans un cadre partisan trop, du moins tel qu'il a fonctionné pendant toute la 4e République.
Alors avant d'inviter les personnes présentes à discuter, à vous poser des questions, une toute dernière question qui nous éloigne de Pierre Brossolette, mais qui revient à vous, Éric Roussel. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vos projets d'écriture? Est-ce qu'il y a un nouveau personnage auquel vous vous attelez, ou est-ce que...
Oui, ce n'est pas un secret, je suis en train d'écrire pour Gallimard une biographie de Mitterrand.
Ouais. Et c'est il y a un terme que vous envisagez?
Oui, enfin, il est le plus vite possible. Enfin, bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner la date exacte.
D'accord. Bon, ben donc... On sait qu'on pourra vous lire avec un ouvrage consacré à François Mitterrand. Alors, nous pouvons remercier Éric Roussel de sa présence et de s'être lancé dans ce grand travail sur Pierre Brossolette. Et puis, le temps est venu, si vous le souhaitez, des dédicaces. Voilà.